La Méridienne.
On est en studio aujourd'hui avec Jérémy Pastoret qui représente l'association Innovateur. Jérémy, bonjour.
Bonjour.
Du coup, on va commencer un petit peu sommairement par qui tu es. Est-ce que si tu pouvais nous parler un petit peu de qui tu es, ton parcours et de comment est-ce qu'on en est arrivé à l'association justement.
Donc moi, c'est Jérémy Pastoret. J'ai cofondé le média Les Innovateurs avec Louise Pastoret. De formation, je suis développeur web. Donc, j'ai suivi un cursus assez classique, universitaire, sur comment on développe des services numériques sur le web, sur des applis mobiles, etc. Et à un moment donné précis, c'est-à-dire au moment où la loi européenne, le RGPD, est apparue, le Règlement général de la protection des données personnelles, j'ai eu un gros déclic sur ce qui se passe autour de la tech, autour de l'enjeu de la vie privée, c'est-à-dire de toute l'économie de l'attention qu'il y a derrière, comment des entreprises se servent de données personnelles pour nous proposer des services, de la publicité, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic sur la tech, c'est pas que magique, c'est pas que génial, il y a aussi des aspects négatifs qu'on ne voit pas, qui est caché en fait pour le grand public. Et c'est comme ça qu'est né le média Les Innovateurs.
À ce sujet, justement, les données personnelles, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour les entreprises et pour les utilisateurs?
Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ces données personnelles, on va prendre un peu les classiques. Donc, le grand classique, c'est Google, avec la phrase qui est revenue très très souvent avec « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». En gros, nos smartphones, si on prend Android, typiquement, donc Android, c'est détenu par Google. Ce qui se passe sur nos téléphones Android, c'est qu'il y a plein de services de Google. Vous avez Google, le moteur de recherche classique, vous avez YouTube, vous avez Gmail, enfin voilà. Et tous ces outils vont collecter de l'information vous concernant, vont lire vos mails pour vous permettre de consulter directement les mails importants, mais il va y avoir tout un tas d'algorithmes, de systèmes développés derrière ces outils qui vont permettre de collecter de l'information et de vous proposer de la publicité ciblée. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec, on a discuté de tel appareil et donc on a de la publicité de tel appareil sur notre moteur de recherche, dans nos messages, etc. Donc c'est là où il y a un gros problème autour de ces données personnelles, c'est que au final, le consommateur a le droit de refuser qu'il y ait toute cette collecte, qu'il y ait tous ces algorithmes qui travaillent nous concernant pour nous proposer des contenus. Il y a aussi toute une économie autour de la revente de ces données personnelles à d'autres entreprises pour nous envoyer de la publicité par mail, etc. Et il y a eu là actuellement toute la problématique autour de l'intelligence artificielle, où en fait, si on prend par exemple Facebook, donc Meta, qui a développé une grosse intelligence artificielle open source, on peut se demander sur quoi elle s'est basée pour entraîner toute son intelligence artificielle. Si on fait des tests, on peut lui demander de générer des posts Facebook assez facilement. Donc on peut se demander si elle n'a pas récupéré plein de posts pour apprendre à écrire français dans différentes langues, quoi.
Ok, donc il y a un vrai défi de responsabilité vis-à-vis des données personnelles. Comment est-ce qu'on peut développer une attitude plus responsable vis-à-vis de la protection de ces données?
La première étape, c'est déjà de refuser tout ce qui est cookie à chaque fois qu'on a cette fameuse pop-up qui arrive quand on consulte des sites. C'est un des avantages du RGPD, du règlement européen, c'est de permettre aux utilisateurs et aux consommateurs européens de refuser la collecte de nos données personnelles. Donc c'est important de prendre le temps de refuser, même si je sais que c'est pénible d'avoir cette pop-up-là. Les concepteurs de sites web l'ont bien compris et donc ont bien mis cette pop-up pour plus énerver et un peu transformer ce RGPD-là en mode négatif.
Ouais, c'est la Dark UX, la fameuse Dark UX, qui rend les sites contre-intuitifs pour les forcer à aller dans leur sens.
C'est ça, et ennuyer les consommateurs et dire c'est de la faute de l'Europe. Sauf qu'en fait, c'est top d'avoir cette pop-up pour refuser, et il y a des extensions qui existent, comme Ninja Cookie, qui permet de désactiver automatiquement tous les critères de tracking de sites et de trackers, de récupération de données personnelles. Moi, ce qui me choque de plus en plus, c'est de voir aussi le nombre de partenaires qui ont accès à ces données personnelles si on accepte. pouvais regarder au début des pop-up. Enfin, maintenant, on a tellement l'habitude qu'on ne les lit même plus. Mais souvent, je vois des chiffres astronomiques. Enfin, par exemple, 980 partenaires sur un site média. Enfin, c'est dingue. Je me demande comment on se retrouve avec 980 partenaires alors qu'on a 5-6 boutons qu'on peut cocher, décocher sur « je partage mes données personnelles ou pas ». Donc, c'est important de désactiver. On ne peut pas être certain qu'ils le font vraiment, mais au moins, on a cette possibilité-là quand même. Après, il y a des outils pour bloquer les trackers. Vous avez des extensions, navigateurs, ce qui bloque les pop-up, etc. Donc, il y a différents types d'outils qu'on peut y ajouter et que vous pourrez retrouver aussi sur le média. Et après, il faut faire aussi super attention à comment on utilise les services numériques. Typiquement, si vous aimez bien utiliser ChatGPT, bah, il faut éviter de mettre des données personnelles. Typiquement, si vous avez envie de répondre à un mail et que vous n'avez pas envie d'écrire la réponse au mail, si vous copiez-collez tel quel le mail d'une personne sur lequel il faut faire une réponse, vous allez copier son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail, et toutes ces données-là vont être partagées à OpenAI, qui adore faire des intelligences artificielles, et je ne suis pas sûr qu'ils font du ménage dans les données qu'on lui donne.
On a abordé énormément de termes techniques, et ça tombe bien, vous êtes venu avec un livre que vous avez écrit... Je suis pas
co-écrit.
Sûr. Co-écrit, ok. Est-ce qu'on peut en parler en vitesse, si ça vous pose
tout
pas de
soucis ? Tout à fait. Donc le livre s'appelle « Comment réduire l'impact de nos pratiques numériques », que vous pouvez retrouver en librairie et même à la bibliothèque de Villefranche. Donc je l'ai co-écrit avec Louise et il a été préfacé par le président de HOP, c'est l'association Halte à l'obsolescence programmée, qui a réussi à gagner des procès face à Apple pour des... stratégie d'obsolescence programmée. Par exemple, ils ont réussi à démontrer que quand Apple faisait une conférence pour un nouveau smartphone, un nouvel iPhone, la mise à jour reçue pour les précédents iPhones, enfin les vieux iPhones au moment où on sort la conférence, faisait que les iPhones devenaient plus lents et qui poussaient à acheter un nouvel iPhone.
Oui, vu que le nouvel OS a plus de fonctionnalités, il est plus chargé, les composants des anciens modèles du coup vont peiner plus à fonctionner correctement.
Exactement, okay. Ça faisait partie des stratégies. Et en tout cas, ils ont pu le prouver et voilà, permettre de gagner des procès face à Apple. Et en tout cas, donc, pour revenir au livre, donc, c'est un livre assez pratique, découpé en chapitres, donc... Il n'y a pas tous les chapitres qui vont vous intéresser, mais vous allez pouvoir vous concentrer sur les chapitres qui vous intéressent spécifiquement. On est allé même sur le champ du jeu vidéo, par exemple. Si vous ne jouez pas au jeu vidéo, vous n'avez pas besoin d'aller le consulter, mais si c'est votre cas, vous pouvez voir les différentes actions que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire votre impact. Il y a tout un chapitre aussi sur l'intelligence artificielle. On était les premiers à sortir un chapitre sur l'impact de l'intelligence artificielle et comment mieux l'utiliser. C'est comme ce que je vous ai expliqué sur la protection des données personnelles, ça en fait partie. Mais il y a aussi sur quel est l'impact d'une requête sur l'intelligence artificielle. On a toute une partie autour des équipements, autour de la fabrication de ces smartphones qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est très très impactante sur l'environnement. Il faut par exemple 800 kg de matières premières pour un ordinateur de 2 kg seulement, c'est énorme. Donc vous avez tous les chiffres, on a tout vulgarisé au maximum. Vous avez tout un chapitre aussi sur la gestion des photos, des vidéos et de l'audio, qui revient assez souvent sur « j'ai plein de photos, je ne sais pas comment faire, est-ce que je rachète un nouvel ordi ?» Et il y a aussi toute la dimension sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour mieux se protéger sur les réseaux sociaux, éviter de partager toute sa vie. Il y a pas mal de sujets que vous pouvez découvrir en ligne si vous voulez voir le sommaire. On a partagé aussi un guide de bonnes pratiques, sur notre site en fait, des innovateurs. Vous pouvez aller voir, tous les chapitres et les tâches à faire pour réduire son impact ou améliorer sa gestion de sa vie privée en ligne. Et donc, vous pourrez à chaque fois cocher « je l'ai réussi » en lien donc, avec tout ce qu'on a marqué dans le livre. Ça permet d'avoir une autre approche, une autre interaction avec le livre, entre le livre et le numérique. Le média donc, a été reconnu par la commission paritaire de la presse en ce début d'année. Donc, on est reconnu comme un organisme de presse par nos pairs de la presse et par l'État. Et donc, pour la partie dons, en tout cas, ça permet de défiscaliser les dons. Et ça nous a permis aussi de reconnaître notre travail sur ces questions-là d'intérêt public, enfin général, et de montrer que le numérique responsable, ça touche aussi le grand public.
Au sein de l'association, il y a toi et Louise, et les personnes qui rédigent sur le site web, c'est qui à peu près ? Parce qu'il n'y a pas que vous, justement.
Tout à fait. En fait, on a des bénévoles qui nous aident à faire des recherches, à faire de la veille, à écrire des articles, à interviewer des personnes de la tech ou même des personnes qui utilisent des services numériques et qui mettent en avant les problèmes qu'elles rencontrent. On a aussi des développeurs qui nous aident à construire des outils à destination du grand public. On a par exemple une extension qui s'appelle EcoSurfer, qui est une extension qui s'installe sur notre navigateur Firefox ou Chrome et qui permet d'afficher et de calculer l'impact des sites web qu'on consulte. Et donc ça nous permet de se rendre compte que quand on a visité, je ne sais pas, Netflix, Amazon, etc., il y a un impact derrière et d'avoir un tableau de bord de l'impact de nos visites. Voilà, c'est un peu ce qu'on a. On a des DPO, des personnes en charge de la protection des données personnelles qui nous aident aussi à écrire des articles sur ces enjeux assez clés qui peuvent être souvent un peu techniques parce que l'aspect légal n'est pas très accessible pour le grand public. Enfin voilà, donc on a différentes typologies en fait de bénévoles qui nous accompagnent au quotidien.
Ok, trop cool. Je parlais du site web tout à l'heure, je me suis baladé un peu dessus, j'ai trouvé un système de mots-clés qui est quand même vachement sympa pour aller d'article en article. Et surtout sur la bannière, moi j'ai vu éthique, responsable et inclusif, j'ai l'impression que c'est vos trois valeurs principales. Est-ce que tu te sentirais de développer un petit peu là-dessus ou pas ?
Oui, tout à fait. Donc sur les trois verticales de notre média, donc il y a l'impact environnemental, donc essayer de décrypter quel est l'impact en émissions de gaz à effet de serre sur les services numériques qu'on utilise. Il y a un gros impact autour de la fabrication des équipements, donc il faut garder le plus longtemps nos appareils numériques. On a une autre verticale autour de l'éthique, donc là c'est tout ce qui est autour des données personnelles. Là on le voit beaucoup avec l'intelligence artificielle qui a récupéré plein de données nous concernant. Pour générer ces systèmes-là qui vont écrire du texte en se basant sur toute une expérience qu'il y a sur Internet, sur la toile. Et la dernière verticale qui est autour de l'inclusivité, c'est comment on fait pour que le numérique soit accessible au plus grand nombre. Parce que là, le numérique, on ne peut plus s'en passer. On doit faire nos démarches administratives pour la plupart maintenant sur des services numériques. Sauf qu'il y a des personnes qui n'y accèdent pas, qui ne savent pas bien se servir du numérique, qui ont peur des fois du numérique. Et il y a aussi toute une dimension, comment on inclut toutes les populations au numérique et qu'elles soient plus représentées. Par exemple, on a un gros manque de femmes dans le monde du numérique. Et voilà, c'est très problématique. Et donc, on essaye d'avoir des articles qui montrent un peu plus les femmes dans la tech. Enfin, voilà, on essaye d'utiliser différents moyens pour parler de ces différents enjeux qu'il y a autour de la tech.
Oui, du coup, les gens voient le terme inclusif... Je vais reprendre ma phrase. Le terme inclusif, ça, c'est pas qu'une question de genre, c'est aussi une question d'accessibilité. J'ai trouvé ça extrêmement sympa que le site soit aussi disponible en anglais. On a de l'écriture inclusive aussi dans les articles, et j'ai trouvé cette attention au détail quand même vachement sympa. Et vraiment, chapeau pour vous là-dessus.
Merci.
Cela dit, est-ce que vous envisagez les choses plus loin, ou est-ce que vous voulez vous cantonner à un site web, ou est-ce que vous avez d'autres projets éventuellement si l'association venait à se développer encore plus ?
Les projets ne manquent pas. Ce qui nous manque, c'est du temps et des moyens. Des moyens financiers, des moyens en termes de humains de compétences. On a beaucoup de projets de solutions numériques pour capter une audience et les accrocher aux valeurs en fait du numérique responsable qui donc enveloppe tout ce qu'on a dit précédemment. Après, sur créer un média papier, pour le moment, c'est un peu compliqué vu le coût du papier et tous les enjeux qu'il y a autour des médias papier. Donc voilà, l'idée, ça serait peut-être d'étoffer encore plus le média, d'avoir plus d'écrits, plus d'articles et d'avoir une communauté encore plus importante qui puisse agir aussi au quotidien pour transformer le numérique qu'on connaît aujourd'hui.
Ok, alors j'ai vu qu'il y avait possibilité, si le média vous plaisait, de faire des donations sur le site web. Est-ce qu'on pourrait juste rappeler l'adresse ?
Oui, alors le site c'est https://les-6innovateurs.com.
Eh bien Jérémy, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci pour l'invitation.
Extrêmement enrichissant. Et peut-être qu'on se recroisera. Ce sera avec plaisir, en tout cas.
Avec plaisir également.
Merci beaucoup.
Merci. Calade. La Méridienne.